C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir, nous sommes le mercredi 11 mars 2020, il est 19h passé de 3 minutes, c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, dans ce Canu Info, nous allons parler de...
Alors on va commencer, semble-t-il, par les bonnes nouvelles du Covid-19, et puis après, violence policière, on en parle de plus en plus à un point, enfin voilà, bon vous allez voir.
Et puis, nous parlerons dans la rubrique « Il faut que ça se sache » d'un nouveau bateau en Méditerranée, de viol et d'agression sexiste dans les CRA et de Erdogan qui joue avec les frontières.
Au Chili, la révolte continue de gronder.
Et enfin, se protéger notre identité sur le net.
Ah, je vais enfin pouvoir télécharger des trucs tranquilles.
Et tout de suite, les bonnes nouvelles du Covid-19.
Alors, on va faire une petite liste, hein, mais on va commencer par 4 députés et un ministre qui ont été détectés positifs au coronavirus. Alors, on espère que l'Assemblée nationale soit décrétée cluster national. Alors, les clusters, c'est le nouveau terme, hein, pour dire gros centre un peu...
un endroit où tout le monde est malade, et se passer sans qu'on passe la maladie.
Du virus et qu'elle soit mise en quarantaine, voire en centaine. Hein, bon. La privatisation des aéroports de Paris
de bouclage.
C'est ça, a été reportée peut-on rêver, hein, peut-être annulée, car le contexte actuel des marchés n'est pas assez stable. Alors que on n'a quand même pas arrêté de nous dire que c'était une bonne nouvelle pour l'économie. Allez y comprendre quelque chose. Donald Trump serait peut-être contaminé. Il a passé un test. Bon, de toute façon, ne rêvez pas. Il y a quand même peu de chances que la Maison Blanche confirme ou infirme l'information. De toute façon, quoi qu'elle dise, on aura un peu du mal à croire si c'est vrai ou pas. Le cours du pétrole, ça vous le savez sûrement, se casse la gueule. Les bourses du monde entier dévissent, donc ça c'est plutôt rigolo. La pollution au dioxyde d'azote en net recul sur la planète suite aux mesures de confinement et à la mise à l'arrêt des entreprises chinoises. Mais bon, ça... sur ce niveau-là, ça devrait repartir. Les téléphones d'Apple risquent d'être en rupture de stock. Ne vous ruez pas.
Hein, pourquoi les téléphones d'Apple ?
Bah, sûrement parce qu'ils ont un tas de pièces qui sont fabriquées en Chine. Ne vous ruez pas, hein, sur votre marchand pour l'acheter. De toute façon, vous n'avez pas les moyens. On peut se mettre en arrêt maladie sans avoir de jours de carence. Ça, c'est quand même plutôt bon à savoir. Bon, alors, la mauvaise nouvelle, c'est que quand même, on va passer en stade 3, là, de l'épidémie dans les jours qui viennent. Ce qui fait que, par exemple, il y a moins de mesures de confinement. Parce qu'on considère que l'épidémie, c'est bon, c'est trop tard. Maintenant, on peut plus la ralentir. Du coup, il suffit plus de dire que vous êtes allé passer votre week-end dans l'Oise comme c'était le cas pour vous faire confiner chez vous. Non, maintenant, après, il faudra présenter.
Dispenser des quoi,
c'est ça. Il faudra présenter de sérieux symptômes. Dans les trucs qui auraient été des bonnes nouvelles pour les élèves, mais non, les écoles ne sont pas fermées.
Dommage.
Et le ministre de l'Éducation a bien précisé, c'est pas lui hein, qui a le coronavirus, c'est le ministère de la Culture. Et a bien précisé que ça n'a représenté aucun danger pour les enfants d'aller à l'école. Par rapport au coronavirus, hein, il s'avance.
Ceci dit, si vous êtes encore à l'école et que vous avez envie d'une journée tranquille, vous avez quand même des bonnes chances en arrivant demain, en toussant un peu partout et en disant que vous ne vous sentez pas bien.
C'est ça. Les moins bonnes nouvelles ne relevant pas du plan médical, hein, bien sûr. Une partie des entreprises vont voir leur activité diminuer, ce qui aura comme conséquence, bien sûr, le dégagement, le licenciement, la fin de contrat, des contrats précaires, style CDD, intérim et tout. C'est déjà le cas en Italie où, par exemple, les contrats précaires de la restauration et l'hôtellerie, toutes les personnes qui bossaient là-dedans étant massivement en contrat précaire, se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain. Les équipages des bateaux de sauvetage Sea-Watch 3 et Ocean Vikings sont toujours confinés à bord par le gouvernement italien. Sea-Watch a quand même tenu à rappeler qu'aucun de ses invités sur le bateau ne présentait de symptômes et que l'OIM, qui est l'Organisation Internationale Maritime, à ne pas confondre avec l'Observatoire International des Migrants, même sigle, mais bon, recommandait d'éviter les retards de mouvement sur les navires, personnes et les biens. Les deux ONG dénoncent une mesure prise uniquement pour retarder les secours en mer. Cette action de confinement vise exclusivement les ONG de secours et les autres navires des ports italiens, eux, ne subissent pas ne subissent pas le même sort.
Et puis nous allons finir sur une pensée en ces temps de pandémie, puisque quand le souverain se fait médecin, l'accès au corps de ses sujets n'a plus de limite.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Écoutez, on va parler de violence policière parce que on va commencer par remonter il y a quelques années. Vous vous souvenez ? L'époque où, quand vous écoutiez Canu, on vous parlait de violence policière. Si vous lisiez Rébellion, vous parlez de violence policière. Ailleurs qu'à Lyon, il y avait encore moyen de trouver des clones de Radio Canu ou de Rébellion, éventuellement un petit journal papier par-ci, un petit réseau social par-là, où on vous parlait de violences policières. Mais quand même, en vrai, il n'y avait pas tellement d'autres personnes qui en parlaient. Et puis surtout, c'était un truc qui arrivait quand même beaucoup à des jeunes, souvent pas très blancs, souvent pas trop dans les centres-villes, assez loin des caméras, assez loin des micros. Il y avait quand même assez facilement moyen de fermer ses oreilles une seconde, une fois de temps en temps, pour ne pas du tout se poser ce genre de questions. Mais depuis quelques temps, disons depuis les manifs contre la loi travail en 2016, les flics se sont plus lâchés. Alors les flics, quand je dis les flics se sont plus lâchés, il faut bien comprendre que c'est certainement pas des flics qui individuellement se sont dit chacun de leur côté, tiens, je pourrais me lâcher un peu plus. C'est qu'il y a réellement eu une différence de la parole politique là-dessus. Et attention, on parle pas du tout de l'époque de Sarkozy, hein, le moment où les gens ont commencé à trouver que c'était dangereux d'aller en manif, c'était bien sous François Hollande. C'est bien les socialistes qui nous ont fait ce cadeau-là, d'une montée d'un sacré cran sur la peur éventuelle de la police. Et ils sont plus lâchés, donc, en particulier sur des manifs contre des militantes et des militants en plein centre-ville. Après ça, il y a eu, du coup, avec le quinquennat de Macron maintenant, l'épisode Gilets jaunes, l'étape, la grosse étape Gilets jaunes. Alors, jusqu'au Gilets jaunes, on avait droit, bon an, mal an, à 2-3 éborgnés par quinquennat. On en parlait, on savait, pas forcément tout le monde, mais quand même, si on se tenait un petit peu au courant de l'actualité des mouvements sociaux, on savait qui avait perdu un œil, à peu près où. Moi, je me souviens d'un lycéen à Nantes, dans le jardin du rectorat, des choses comme ça. Alors, là, les gilets jaunes sont arrivés et là, on a directement changé d'échelle. C'est-à-dire que je viens de regarder sur le site Désarmons-les, et le site Désarmons-les, attention, c'est pas un site officiel qui centralise de manière exhaustive les infos. C'est un site qui va pêcher les infos là où il peut, c'est-à-dire qu'il peut encore lui en échapper. Désarmons-les, compte pour le seul mois de novembre 2018, 5 personnes éborgnées par des tirs de LBD, c'est-à-dire plus que pendant les années précédentes, pour le seul mois de novembre. Et là, je parle que des personnes éborgnées, j'ai pas compté sur la même période toutes les autres blessures et entre autres plusieurs mains arrachées pendant ce même mois. Et depuis, voilà, c'est comme une sorte de marée qui monte. Tout le monde déteste la police. Alors d'abord, les classiques militants anarchistes, petit à petit, ici une chercheuse, là un journaliste, parfois un éditorialiste, ou éventuellement le rapport d'une ONG se met à se poser des questions sur les pratiques de maintien de l'ordre. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il se passe quelque chose d'inhabituel? Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que peut-être que les flics, des fois, iraient trop loin? Alors les syndicats de flics répondent au coup par coup. Ouh non, mais là, la vidéo montre pas tout. Le flic qu'on voit, il était paniqué. C'était de la légitime défense. D'ailleurs, Steve a sauté tout seul dans la Loire. Et puis Théo, si ça se trouve, c'était un trafiquant de drogue. Alors il faut pas qu'il s'étonne de se retrouver avec une matraque dans le cul. Le manifeste étant couché à terre, qui se fait donc écraser la face contre le goudron, avait menacé le flic de lui cracher dessus, et puis d'ailleurs qu'il était séropositif, et donc le flic... Bon, les flics, c'est-à-dire qu'ils sont quand même aussi de moins en moins crédibles. Ils cherchent d'ailleurs, ils se font de moins en moins chier à être crédibles. Hein. Il suffit qu'ils disent... En fait, ils ouvrent la bouche, et puis ils sortent des choses de leur bouche, mais c'est même pas très important. Puisque ce qui se passe, c'est que les politiques soutiennent les flics, eux aussi, sans aucune limite, au-delà de toute indécence. Et donc, voilà, les politiques soutiennent de plus en plus les flics vont de plus en plus loin. Et, de fait, tout le monde finit par être obligé de le remarquer. Et y compris chez les gens qui le nient, tout le monde est obligé d'en parler à un moment ou à un autre. La semaine dernière, un article de Mediapart nous apprend que les flics eux-mêmes trouvent qu'on leur demande d'aller trop loin. Alors la gendarmerie, dans des notes internes, trouve que le préfet de police de Paris donne des consignes, ouvrez les guillemets, largement douteuses et aux conséquences politiques potentiellement néfastes. Mediapart a aussi obtenu des notes émises par les plus hauts gradés de la gendarmerie nationale et des compagnies des CRS qui alertent solennellement sur l'irrégularité et la disproportion de l'usage de la force ordonné par le préfet de police de Paris, donc Didier Lallemand. Et il trouve sur une messagerie interne au CRS un flic qui raconte une manif et qui dit la manière d'agir des braves. Alors les braves, vous avez capté, c'est flics à moto là où il y en a un qui conduit et l'autre qui matraque. Ils sont deux sur une moto. La manière d'agir des braves, donc sur une manif en particulier, c'est un flic qui parle, et donc sur une messagerie interne, hein, vraiment il parle à ses collègues. La manière d'agir des braves démontre soit un manque d'expérience, soit un manque de lucidité, soit des ordres à la con. Et il continue à raconter la manif et il dit « À un moment, il y avait du cassos, mais quasiment pas de casseurs. Et là, les braves ont chargé gratos. » C'est toujours le CRS qui parle entre flics, quoi. Et là, bon, il est deg parce que du coup, comme, suite à cette charge des braves, bon, bah, les gens ont répondu en face, tout le monde s'est bastonné, le flic a terminé sa journée plus tard. Lui, il aurait bien aimé terminer plus tôt, mais... Et donc, il continue en disant « Ils ont bien reçu l'ordre de quelqu'un de chargé. » Alors, le mec qui a décidé ça, collègue ou pas, c'est un âne. Voilà où en sont, je veux dire, les flics, quoi. Et surtout, dans cet article, on apprend que ce préfet de police de Paris, donc le fameux, de plus en plus fameux Didier Lallemand, recommande avant une manif, donc c'est une histoire particulière un jour, mais il recommande aux flics d'aller impacter les manifestants. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot précisément? Ça veut dire, pendant cette manif, je veux que vous alliez taper dans le tas. Ça veut pas dire, c'est pas du tout le même ordre que serait si on vous provoque, répondez. Que serait si allez on vous envoie des trucs, voilà, n'hésitez pas à faire de la légitime défense. Ça veut dire, dans tous les cas, vous y allez. Impacter les manifestants, c'est ça que ça veut dire.
C'est que dans une manifestation, les flics peuvent avoir l'ordre, par exemple, de ne pas forcément arrêter s'il y a des vitrines de cassé, tout ça, ou l'ordre contraire, c'est s'il y a de la casse, c'est de l'interpellation, machin. Mais là, on est au-delà de ça, quoi.
Là, on est au-delà de ça. Là, on est qui se passe quelque chose ou qui se passe rien. Moi, le préfet de police, je veux qu'il se passe quelque chose. Donc, vous y allez et vous tapez. Alors, bon, ce Didier Lallemand, il y a une sorte d'effet Didier Lallemand. C'est-à-dire que lui, on apprend, alors ici, on apprend que Juppé l'avait traité de nazi quand il était préfet à Bordeaux. Là, on apprend qu'il est fan de la Légion étrangère. Bon, il y a une sorte de légende noire qui se crée autour de ce bonhomme et qui en fait comme une sorte de cas exceptionnel. Alors là, il a été nommé à Paris, c'est-à-dire il est monté en grade, et c'est quand même bien à un moment où le gouvernement trouvait que contre les gilets jaunes, il fallait vraiment y aller trash, y aller à fond. Et ils y sont allés. Mais il y a un peu cet effet-là qui fait un peu comme s'il était exceptionnel. En fait, il est, peut-être qu'il est un peu plus cinglé que la moyenne. C'est même un peu vraisemblable. Mais il faudrait pas croire qu'il est, que les autres sont si loin derrière.
Oui, ça, faudrait pas imaginer que le jour où il va partir, tout va changer.
Ben c'est ça, qu'il suffirait de changer le bonhomme pour que tout aille mieux. En fait, c'est bel et bien toute la police française qui est en roue libre. Et alors, par exemple, je veux dire, pour parler d'une actualité relativement récente, qui aurait cru qu'en ces temps d'une sorte d'affichage féministe du gouvernement, un truc un peu quand même... attention, on est dans un pays où les droits des femmes, ça compte. Bon, alors, dans la pratique, on voit bien que pas tant que ça, je veux dire, sur des tonnes de manières. Mais en tout cas, l'affichage du gouvernement sur le féminisme est très, très volontariste. Et qui aurait cru qu'en ces temps, les flics pourraient défoncer une manif féministe non mixte, c'est-à-dire une manif de femmes, samedi dernier à Paris, sans que personne perde son poste, sans que le moindre lampiste se fasse taper sur les doigts, au moins un petit peu publiquement. Non, non, là, Castaner a demandé un rapport. Et côté réaction gouvernementale, bah, ouais, il a demandé un rapport, voilà, ça s'arrête là. Alors voilà, ce matin, l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, a sorti un rapport. L'ACAT, c'est une vieille ONG sur les droits humains, ça serait un peu l'Amnesty internationale des chrétiens. C'est-à-dire que c'est un truc où j'ai l'impression qu'il y a à la fois des catholiques et des protestants dedans. Mais en tout cas, c'est un truc qui est ancien, qui a une légitimité. C'est un gros truc, quoi. Ils ont sorti un rapport sur la police française et sur le maintien de l'ordre de la police française. Le recours important à des forces non spécialisées et à des armes de force intermédiaires, le nombre élevé de personnes blessées et la cristallisation des tensions entre manifestants et forces de l'ordre, témoigne d'un maintien de l'ordre dysfonctionnel qui échoue parfois à remplir sa mission première, garantir un exercice optimal des libertés publiques. Donc ça, c'est la manière dont ils commencent leur rapport. Et là, dans leur rapport, ils balancent. L'opacité du gouvernement, le fait qu'ils publient jamais rien sur les armes vraiment utilisées, enfin sur les quantités d'armes utilisées. En fait, il y a des gens qui sortent des chiffres, mais qui les sortent en recoupant plein d'infos. Tout ça, le gouvernement, il moule là-dessus. Sur les personnes blessées, alors là aussi le gouvernement peut dire, non mais dans telle manif, vous voyez, on a eu tant de flics blessés, mais il y a seulement tant de manifestants blessés, mais ils sortent jamais de chiffres globaux, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller demander au gouvernement combien ils ont crevé d'œil depuis le mouvement des gilets jaunes, il y a rien, il y a que dalle. L'ACAT dénonce du coup globalement l'usage de ces armes qu'ils appellent de force intermédiaire, c'est-à-dire ce que d'autres appellent les armes non létales, les LBD, toutes les sortes de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement, la fameuse Gli F4 qui maintenant est enlevée, mais qui est remplacée par une autre qui s'appelle GM2L, mais dont l'ACAT dit qu'en fait, a priori, elle est tout aussi dangereuse. Et voilà, ils disent aussi que ce truc qu'on entend régulièrement de « oui, mais les forces de l'ordre sont épuisées, elles sont à bout », que c'est pas une excuse. Et alors voilà, après ils arrivent à des préconisations qui, pour le coup, nous passionnent moins. C'est-à-dire qu'ils voudraient qu'il y ait beaucoup plus de médiateurs dans les manifs, que les gens viennent parler aux manifestants, que les flics envoient des gens qui soient à l'intérieur des manifs, pas pour la répression, hein, mais pour la médiation. Expliquer aux manifestants quand quelqu'un se fait embarquer, pourquoi il se fait embarquer, de manière à ce que les gens s'énervent pas trop. Ils disent aussi que c'est pas très évident. Alors ça pour le coup, c'est effectivement une question qui est un peu intéressante. C'est-à-dire que quand on est très habitué des manifs et du moment où ça risque de commencer à partir en couille, on comprend ce que c'est que les sommations. C'est-à-dire que il y a une fusée, il y a des booms ou des je sais pas quoi. Ça veut dire, bon, là, si vous avez envie de pas respirer de gaz, c'est le moment de se barrer. Si vous restez, ça va être le moment un peu sport. Mais en fait, les gens qui sont pas habitués des manifs, bah, c'est quand même pas évident de se dire, tiens, il y a une lumière dans le ciel. Ah ben voilà, c'est joli, c'est peut-être quelqu'un qui un manifestant, c'est peut-être comme un fumigène, mais là sous forme de feu d'artifice.
Et d'autant moins évident que c'est pas non plus systématique qu'il le fasse, quoi.
C'est que du coup il y a des espèces de codes qui sont de toute façon à moitié respectés, et donc là il faudrait que toutes les personnes qui vont à une manif pour la première fois comprennent ce que ça veut dire. Bon, évidemment ça peut pas du tout marcher comme ça. Bon voilà, en tout cas, je veux dire, ces trucs de l'ACAT, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont pas a priori, c'est-à-dire qui sont très très légalistes, très très, on n'est pas forcément d'accord avec eux surtout, mais en tout cas c'est un sacré signe Et puis, bon, il y a toujours ces fameuses histoires de l'IGPN. Hein. Alors, l'IGPN est saisi par-ci, l'IGPN est saisi par-là. Il se trouve que les flics sont juste pas condamnés, jamais condamnés. Et voilà, et tout ça pour en arriver aussi à samedi dernier à Lyon. Samedi dernier, c'était l'acte 69 des Gilets jaunes, et donc les Gilets jaunes ont décidé de fêter l'acte 69 dans la capitale du 69 à Lyon. Oh bah ma foi, il y avait quand même... ça a donné un peu à Bellecour et autour.
Les manifestants ont enfin réussi à accéder à la rue Victor Hugo, ce qui était quand
même
une sacrée
histoire. Et bah, ils ont donc carrément accédé. Mais, ma foi, ça a chié un peu à droite et à gauche. Et donc, on va entendre tout de suite le témoignage de ce jeune, de ce très jeune manifestant, puisqu'il avait 16 ans, qu'il était là, bah, a priori, lui, sa manière de se politiser, c'était plutôt les Youth for Climate. J'ai vraiment du mal avec l'anglais. Mais en tout cas, la jeunesse pour le climat, c'est les grèves scolaires pour le climat, tout ça. Mais en tout cas, il s'est retrouvé à ce truc-là, et maintenant, il nous explique comment, pourquoi, et puis comment il s'en est sorti.
Du coup, je m'appelle Noé, j'ai 16 ans, je suis au lycée en seconde.
Alors qu'est-ce qui s'est passé samedi ?
C'était l'acte 69 des Gilets jaunes, donc 69 comme notre département. Donc l'appel national était à Lyon cette fois-là. Je savais qu'il allait y avoir du monde, donc j'avais vraiment envie de venir. D'autant plus qu'il y a eu le 49-3. Donc là, moi je suis venu pour protester contre le 49-3, en soutien aux Gilets jaunes de première heure. Protester contre la réforme des retraites aussi. Contre la réforme du bac. Le rendez-vous était donné à 13h, départ de la manifestation vers 14h. J'arrive à Place Bellecour, je retrouve mes amis, on discute un peu. Les policiers se déploient. Il y a deux policiers avec un LBD qui vise et qui vise la tête, sans tirer, sans rien, juste pour intimider, qui vise la tête. Moi, je me sens visé plusieurs fois par le même policier et à un moment, il me pointe du doigt. Donc derrière, les policiers font les premières sommations, nous demandent de nous disperser. On refuse de se disperser. Il y a un caillou qui est jeté sur les policiers. Et à ce moment-là, ça dégénère. Ils attendaient que ça. Et ils tirent énormément de grenades lacrymogènes. Donc avec mon ami, on se regarde, on se dit on part. Quand je me retourne, je prends un gros choc, vraiment énorme, sur la joue. Donc, au début, je me dis on m'a tapé. Et après, j'entends un truc qui tombe par terre. Et je fais, bah non, c'est une balle en fait. Une balle de LBD. Donc mon amie elle m'aide à sortir, elle crie médic, les gens autour aussi crient médic. Donc ça met un moment, ça m'a paru très long. Il m'amène au niveau de la statue de Louis XIV, d'essayer de me prodiguer les premiers soins, sauf qu'en fait, il se rend compte très vite qu'il y a une fracture en fait. Ils me disent, voilà, t'as une fracture, nous ce qu'on peut juste faire c'est te rincer la bouche. Ne pas m'inquiéter, moi j'ai vraiment l'impression de me vider de mon sang, enfin j'avais vraiment des grosses lacs de sang sous moi et tout, donc ça me faisait très peur aussi, mais ils me disaient que c'était pas grave, fallait pas que je m'inquiète et tout. Ils essayaient de m'ouvrir un peu la bouche pour voir comment ça se passe à l'intérieur, si les dents sont touchées ou pas, voilà, c'est très compliqué parce que du coup moi j'arrivais pas trop à ouvrir la bouche. Ils me rincent la bouche avec du sérum phi, ils peuvent pas faire grand chose d'autre, c'est ce qu'ils m'expliquent, ils appellent les pompiers. On attend les pompiers. Toujours ce sang qui coule, qui fait des flaques en dessous, donc j'ai l'impression juste de voir toutes les vidéos qu'on peut voir sur Twitter, Instagram, de gens qui se vident de leur sang après avoir reçu un LBD, et en fait j'ai l'impression de voir ça réellement, et j'arrivais pas à tilter que c'était moi en fait. Il y a dû avoir 40 minutes entre le moment où j'ai été touché et l'arrivée des pompiers, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que les forces de l'ordre ne laissaient pas passer les pompiers. Derrière je pars à l'hôpital et... ils mettent sous morphine, ils me font passer des radios, des scanners. Voilà, j'avais une fracture plurifragmentaire au niveau du point d'impact, donc de la mandibule. Et ils m'ont opéré, ils m'ont mis des plaques en titane tout le long de la mâchoire pour la consolider. Donc ces plaques-là, je vais sûrement les garder à vie, ils m'ont dit. Je suis obligé de manger du liquide, donc ce que je mange, c'est des danettes et des jus de pomme, et c'est tout. Une musique que j'ai écoutée à l'hôpital, c'est D1ST1. Celle-là.
Alors, suite à ce qui s'est passé samedi, il y a eu des réactions, notamment des politiques qui sont en campagne électorale. David Kimmelfeld a dit qu'on a assisté à des actes de groupe dont le seul but est de saccager et de casser. Est-ce que toi, ton seul but, c'était de saccager et de casser?
Pas du tout, moi j'étais venu là pour exprimer mes revendications, pour manifester. Et même s'il y avait des dégradations, enfin genre, à aucun moment on peut justifier en fait le fait qu'une personne perde un œil ou se fracture la mâchoire par le fait qu'elle ait commis des dégradations. Et d'autres, enfin, du coup, dans mon cas, en plus, j'ai rien fait, j'avais fait 15 minutes de manifestation, donc c'est encore pire. Là, ils m'ont cassé la mâchoire, c'est voilà, je te casse la bouche, tu te tais, t'es jeune, t'as 16 ans, t'obéis à ce qu'on te dit, t'arrêtes de manifester, tu fais plus rien. Mais moi, justement, j'ai pas envie de céder à cette violence, et je vais continuer à manifester malgré tout.
Et on apprend dans l'article de Rue 89 Lyon qui nous raconte cette histoire que quand notre jeune interviewé est arrivé à l'hôpital, c'est son père qui raconte ça, que donc ils ont été plusieurs blessés pendant la manif de samedi, blessés par les flics, et que là des flics sont venus à l'hôpital avec des formulaires pour les encourager à aller porter plainte contre les flics qui les avaient blessés. C'est-à-dire que alors je voudrais surtout pas qu'on aille penser avec ce que je dis, ça va, on va être protégé de la police par la police.
Non, parce que ça montre un truc quoi.
Tout ça va faire qu'il y aura des enquêtes de l'IGPN qui concluront au fait que bon bah les flics ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. Mais ça montre qu'on en arrive à une situation tellement cinglée que c'est là qu'on en est. Mais pour nous protéger de la police quand même, le mieux c'est encore nous-mêmes.
Et pour continuer à parler de violence policière et aussi pour donner une explication de pourquoi il y a toute cette semaine, ça en cause beaucoup dans les médias, c'est qu'aussi samedi 14 mars, c'est la journée internationale de lutte contre les violences policières. Et voilà, c'est comme pour les journées des femmes, et ben c'est l'occasion d'en parler pas mal et qu'il y ait pas mal de rapports qui sortent. Et en tout cas, moi je voulais parler de la manif qui va avoir lieu à Paris, qui s'appelle Laissez-nous respirer, et c'est un appel des familles contre l'impunité des violences policières. Et c'est pour l'interdiction des techniques d'immobilisation mortelle et des armes de guerre en maintien de l'ordre. Et du coup, c'est des collectifs de familles, des collectifs de victimes, quartiers populaires, syndicats, militants, gilets jaunes, qui appellent à cette marche contre les violences judiciaires, de leur déni de justice, contre leurs injures médiatiques. Et je cite, pour nous tuer, nous mutiler, nous blesser, nous humilier, à l'appel de nous, voilà. Et donc bien sûr c'est des gens qui luttent au quotidien contre les violences policières, et vous pouvez retrouver l'appel sur le site de l'Humanité ou sur Démosphère. Et je voulais également vous parler de l'Assemblée des blessés franciliennes et ses composantes, puisque le 1er mars 2020 cette assemblée de blessés a averti dans un communiqué qu'elle ne voulait pas de récupération politicienne des violences policières à des fins électoralistes. Donc je vais les citer, je vais faire trois petites citations. Donc nous déplorons la multiplication d'appels à manifestations simultanées à la marche annuelle contre les violences d'État de la mi-mars, seule journée de l'année qui leur soit exclusivement consacrée. Donc, nous ne cherchons pas à diviser. Nous sommes les premières avec les collectifs de familles et de victimes et les luttes des quartiers populaires à subir cette division. Mais nous avons la sensation que le combat porté par ces collectifs de familles est manipulé au gré des circonstances et des ambitions politiciennes des uns et des autres, qui se rendent même pas compte que ces calculs font du tort au combat contre les violences d'État. Nous dénonçons toute action ou campagne visant à distinguer certaines victimes des autres, à légitimer certaines violences d'État ou à demander l'interdiction de moyens de force, donc comme les armes, grenades, munitions, techniques d'immobilisation, dans certaines situations, dans certains quartiers ou contre certaines catégories de personnes, mais pas contre d'autres ou pas pour d'autres. Par conséquent, nous ne soutiendrons plus aucune initiative appelant à interdire l'usage des lanceurs de balles dans le seul cadre des manifestations, y compris d'un point de vue stratégique juridique, et nous appelons tous les collectifs contre les violences policières à faire de même. Voilà, je trouvais ça important de resituer ça dans ce contexte. À bon entendeur. Canu Info. Et on parle du Chili où la révolte continue de gronder. Il y a une, il y avait la grève lundi 9, une grève générale féministe. Et pour resituer, au final, c'était, c'est un appel à une grève générale. La révolution sera féministe ou n'aura pas lieu. Et voilà. Donc il y a eu des millions de femmes qui ont manifesté dimanche et lundi au Chili. Mais je voulais parler plus généralement du mouvement social chilien. De refaire un point dessus, puisque près de 5 mois après le début de la contestation et à quelques semaines de la tenue d'un référendum sur l'écriture d'une nouvelle constitution, la révolte et les révoltes sont sur tous les fronts. Et le mois de mars, en fait, c'est la fin des vacances scolaires. Faut imaginer, c'est l'équivalent du mois de septembre en France. C'est voilà. Et donc, bah, début mars, ça a été le retour direct. Tu vois, comme si en début septembre, et ben là, tout repète. Il y a eu 2 mois de pause. En fait, les gens ils sont bien reposés, sauf que les gens ils ont recommencé direct dès la première semaine. Et du coup, la Plaza Italia de Santiago, qui avait été rebaptisée par les manifestantes Place de la Dignité, et ben début d'année scolaire, ben elle est déjà recouverte de lacrymos et ça va durer encore un moment. Il y a les super lunes au Chili, c'est les super lundis qui ont marqué donc la reprise le mois de mars débarque. C'est les slogans qui sont un peu partout, le mois de mars débarque, qu'on peut retrouver en graffiti dans toute la ville. Et voilà. Et donc pour parler de répression, c'est pour ça que notamment j'en parlais, c'est que les protestations donc d'une ampleur inédite depuis la fin de la dictature ont depuis le début connu des épisodes de violence. Donc une trentaine de personnes sont mortes lors d'affrontements. Et ça c'est selon l'Institut des droits chiliens, 445 personnes ont été blessées aux yeux. Certaines d'entre elles ont totalement perdu la vue après avoir reçu des balles tirées par la police. Et dès le mois de décembre, une délégation de l'ONU dépêché au Chili faisait état d'un usage disproportionné de la force contre les manifestants. Et le taux de confiance dans les forces de l'ordre, selon la dernière enquête d'opinion du CEP, le Centre National d'Études Publiques, donc qui est en fait privé et classé à droite, était donc de 17% au mois de décembre, contre 57% 4 ans plus tôt. C'est quand même intéressant. Donc toutes les institutions donc sont ternies, les partis politiques, l'Église, les médias, la justice. Et quant au président Piñera, il récolte une approbation historique basse de 6%. Et au mois de décembre, le président a annoncé un paquet de mesures représentant l'équivalent de près de 5 milliards d'euros destinés à aider les petites et moyennes entreprises et à reconstruire l'infrastructure publique endommagée. Et le président a par ailleurs annoncé une revalorisation des petites retraites et une baisse des prix des médicaments, particulièrement onéreux au Chili. Mais ça ne suffit pas, puisque en parallèle, la campagne pour la tenue d'un référendum posant la question de l'écriture d'une nouvelle constitution rédigée par une assemblée mixte, composée de parlementaires et de citoyens et citoyennes, a débuté à la fin du mois de février, on en avait déjà parlé il y a 2 semaines, et le vote aura lieu donc le 26 avril. Et sur cette constitution, il y a plein de choses, notamment là, on avait axé sur la lutte sur l'eau, mais puisque l'eau est privée au Chili et qu'il y a un enjeu à rendre ce bien-là comme un bien de base. Voilà, un droit de base. Bref, voilà. Donc, malgré aussi, c'est ça qui est important de voir, malgré la répression, ben, les luttes continuent.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Il faut que ça se sache.
On va commencer cette rubrique Il faut que ça sache par une bonne nouvelle et ce sera la dernière. L'alliance United for Rescue, qui est un espèce de conglomérat d'associations, d'entreprises, d'associations religieuses, bref. Et Sea Watch.
C'était voilà. Ça qui avait tellement de mal à sortir.
Non, je ne savais pas quel terme employer. Bref, protestante et catholique en Allemagne, et Sea-Watch ont acheté un nouveau bateau baptisé le Sea-Watch 4. Et c'est aussi notamment grâce à une large campagne d'appel à dons qu'on avait relié sur cette antenne. Donc ça y est, ils ont un...
Merci les auditrices de Radio Canu.
Tout nouveau bateau. C'est un ancien bateau de recherche qui se prénommait Poséidon, mais qui va être rebaptisé Sea-Watch 4. Ce sera le plus grand bateau de secours en Méditerranée. Il devrait donc pouvoir avoir une capacité de secours plus importante. Et autant dire que trois navires, ce ne sera pas de trop. Alors, il n'est pas encore en mer. Le navire doit subir quelques modifications pour être équipé au mieux pour sauver les personnes. D'ailleurs, bon bah si des auditeurs et auditrices ont encore quelques copecs qui leur restent sous leur matelas, c'est toujours possible de leur refiler un peu de pognon à Sea-Watch pour faire ces travaux-là. En tout cas, voilà, Sea-Watch espère une mise en service d'ici Pâques.
Les viols et les agressions sexistes en CRA, donc pour continuer cette rubrique, faut que ça sache, c'est il y a eu le vendredi 13 février, donc ça remonte un peu, une agression sexuelle qui a eu lieu dans la prison de Ménilamlo. Au CRA de Ménilamlo, un retenu est passé dans le bâtiment des femmes et a agressé trois femmes dans l'indifférence des flics qui ont mis un bon quart d'heure au moins avant d'intervenir. Et trois de ces femmes ont porté plainte et depuis l'agresseur a été déporté et l'affaire classée comme si la déportation aurait effacé ce qui s'est passé. Il y a eu un classement sans suite des faits puisque les juges n'ont pas cru ces femmes et en ont plutôt profité pour les culpabiliser. Et une des femmes a été déportée alors que les deux autres restent isolées dans le centre sous la menace de la déportation et sans avoir vu ni psy ni médecin, comme la plupart des autres détenus. Et dans un article de abalekra.noblogs.org, donc ces trois femmes racontent les moqueries quotidiennes des flics, les insultes et les blagues racistes et la culpabilisation qu'elles subissent de la part des juges et de l'infirmière du centre. Et un communiqué de soutien est sorti hier mardi 10 mars qui s'appelle « Contre les violences patriarcales de l'État, liberté pour toutes les femmes enfermées ». Et donc dans ce communiqué, bah c'est montre comment l'hétéropatriarcat et le racisme sont liés et se renforcent mutuellement lorsqu'il s'agit de personnes précaires, quand il s'agit de personnes enfermées.
Et on va faire un tour du côté de la Turquie et qui est alors même qu'elle est en mauvaise position militairement en Syrie, qu'elle s'est mis Moscou, qui était pourtant un de ses alliés, à dos en intervenant à Idlib contre Bachar el-Assad, que des militaires turcs sont morts sur ce terrain-là. Qu'en conséquence de quoi, des vagues d'agressions de nationalistes turcs ont visé les communautés syriennes en Turquie dans plusieurs villes. On voit notamment sur internet des vidéos de grandes manifestations comme ça qui disent nos soldats sont morts au combat. C'est de la faute, en gros, c'est de la faute de la communauté syrienne et des réfugiés syriens qui sont en Turquie. On en voit s'en prendre à des manifestants s'en prendre à des personnes et à des magasins connus comme étant tenus par des familles syriennes. C'est donc dans ce contexte que Erdogan décide de foutre la pression à l'UE en ouvrant entre guillemets sa frontière avec la Grèce, sachant très bien que derrière la Grèce n'allait pas ouvrir ses portes, mettant au passage la vie des personnes exilées qui tentent de passer la frontière en danger. Le 1er mars, Erdogan déclare, je cite, « Les portes sont ouvertes, vous devez prendre votre part du fardeau. Depuis, nous avons ouvert la frontière, ils sont plusieurs centaines de milliers à gagner l'Europe, bientôt ce sera des millions. » Donc voilà comment ce président un peu joue de la menace un peu d'une espèce de vague un peu migratoire. Le 2 mars, Mohamed Al-Arab est tué par des militaires grecs à la frontière alors qu'il tentait de passer de la Turquie à la Grèce. Un enfant est également mort alors qu'il était dans une embarcation de fortune et qu'il se dirigeait vers les îles de Lesbos avec plusieurs personnes sur l'embarcation. Une vidéo est sortie, alors à prendre avec des pincettes, mais qui a été communiquée par les gardes-côtes turcs. Du coup, on voit un peu leur enjeu à communiquer là-dessus, qui montre des gardes-côtes grecs tirés à balles réelles près des embarcations et qui tentent de crever les bateaux pneumatiques avec des espèces de grandes perches comme ça. Bien sûr, ces bateaux étant remplis de personnes qui tentent de traverser la rive. L'ONG, ce qui confirme quand même un peu cette vidéo, Alarm Phone, en qui pour le coup on a complètement confiance, fait état de plusieurs bateaux en mer Égée qui ont été pris en embuscade par des hommes cagoulés qui tentent de détruire les moteurs, ainsi que des bateaux laissés à la dérive, pour le coup aussi bien par les gardes-côtes grecs que par les gardes-côtes turcs. Donc c'est-à-dire que là on est un peu dans des espèces de trucs de communication où les gardes-côtes turcs montrent le mauvais comportement des gardes-côtes grecs, mais voilà, bien sûr ils vont pas montrer leur mauvais comportement à eux, mais ils sont pas en reste non plus. Et c'est donc de cette manière, en jouant avec la vie des gens, que le président turc veut peser sur les prochaines négociations donc avec l'UE, qu'il a précipité, voire qu'il a mis en place. Et c'est en réclamant son chèque de 6 milliards d'euros promis par l'UE pour que la Turquie repousse, gère et enferme les galériens à ses portes. Et c'est aussi pour réclamer la fin des visas Schengen pour les citoyens turcs qui veulent se rendre en Europe. De son côté, du côté grec, pardon, les autorités sont soupçonnées d'enfermer les migrants à la frontière turco-grecque dans un centre de rétention secret avant de les expulser à Athènes dément. Pour l'instant, on surveillera un peu ça et on verra ce qu'il en est. Des milices également anti-migrants patrouillent vers Lesbos et Evros, fusils à la main pour repousser les migrants qu'ils croisent. Voilà un peu le nouveau contexte ou un peu gros point de tension, ou en tout cas, je sais pas comment appeler ça, qui se passe en ce moment sur ces espèces de frontières de l'Europe forteresse.
Ça sache. Pour finir ce Canu Info, nous allons parler de protection de nos identités sur le net avec des événements et des articles qu'on vous conseille. Donc il y a un article qui a été publié aujourd'hui sur Paris Lutte Info qui s'appelle « Mets pas tes potes en zonzon ». Un article sur la sécurité informatique. Voilà, il est un peu long le titre et je vous conseille d'aller le lire. En fait, dans un contexte où les outils numériques jouent un rôle important pour réunir les gens et du coup organiser des actions de groupe, donc pour leur article, il leur a semblé important de faire un énième point sur les risques que représente ce type d'outils. Le but, c'est d'avoir une lecture politique des risques numériques pour ne pas sombrer dans la paranoïa et l'inaction, mais au contraire pour renforcer les dynamiques collectives en adaptant les pratiques. Donc l'idée, c'est pas de dire faut rien faire ou de se dire prenez-le pas comme une leçon de morale parce que vous utilisez WhatsApp et faites pas du déni parce que vous utilisez WhatsApp. Plutôt, dites-vous ah bah oui, j'utilise WhatsApp, mais du coup qu'est-ce que ça implique comme risque, et pour moi et pour les autres, et puis voyez-le plutôt comme une manière d'en apprendre plus sur les dessous de l'informatique. Et voilà, et c'est pas mal d'utiliser WhatsApp, c'est juste qu'il y a des trucs à savoir, comme en manif, des petits gestes pour aider d'autres gens. Et du coup, je voulais également vous parler la semaine prochaine, donc du 17 au 21 mars, il y a à l'amicale. Dans le 7e, beaucoup de choses autour des questions informatiques qui vont se passer.
Alors ça a parlé soutien au Crypto Club, Tales Party, Autodéfense Numérique, Dumb Makeup, Utopie Déchue, Technopolis, Célébrité et Reconnaissance Faciale.
Voilà, et donc j'ai préparé justement un truc pour qu'on comprenne un truc, parce que là, dans ton énumération, bah, ça fait plutôt peur le programme. Allez, j'essaye de le décrypter. Donc, il y a cette question de si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi vouloir te cacher ? Donc cette maxime contient une injonction à la transparence à laquelle tout un chacun est régulièrement sommé de répondre, on le sent en manif, notamment quand on est militant, et devant laquelle le monde est si vite mis à nu. Donc couplé à l'argument massue du terrorisme, ça marche à tous les coups. La vidéosurveillance, les fichiers ADN, les passeports biométriques, la reconnaissance faciale. Donc cacher, c'est s'attirer le soupçon. C'est déjà se mettre sur le banc des accusés. Donc devenue qualité morale, la transparence peut se porter en étendard, gage de probité et de respectabilité, une règle de bonne conduite. Et donc, bah, c'est une critique de ça qui va se faire pendant du 17 au 21 avril, puisque la numérisation du monde et des pans entiers de l'existence est toujours en cours, et il paraît donc vital de nous défaire prudemment de cette injonction à la transparence et de ce boulot numérique. Donc, contre la technotraçage et la smart surveillance, il y aura le mardi 17 au samedi 21 des événements organisés à l'amicale, et notamment autour des formes politiques qui ont été déposées par les pionniers dans les réseaux des réseaux, un livre de Félix Traeger, L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet. Voilà, et donc il va y avoir toute une discussion autour de ce bouquin qui vient de paraître. Et voilà, et puis les autres choses, tu les as annoncées. N'hésitez pas à aller retrouver le programme sur le site de l'Amicale et sur rebellion.info. Ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.